Vous écoutez RTL.
RTL. Il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Dans un instant, les confidences de la réalisatrice Mélanie Laurent avec Stéphane Boutsock. Son nouveau film Plongé sort mercredi prochain au cinéma. Michel Houellebecq, Didier Van Cauwelaert, Didier Decoin et Irène Frein composent le jury du prix 30 millions d'amis. Qui chaque année depuis 35 ans récompense un roman mettant à l'honneur un animal. Bernard Lehu les a retrouvés, réunis pour l'annonce du lauréat 2017. On passera en revue nos programmes télé du week-end avec Isabelle Morini-Bosque et puis les personnages Sulky et Sulcu, créés par Jean-Michel Ribes il y a plus de 10 ans dans sa pièce Muséo, Musée Bas, ont mais oui, désormais leur propre spectacle. Ce sera le coup de cœur de Monique Younes, bien entendu.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Après Les Adoptés, Respire et le documentaire Demain, la comédienne Mélanie Laurent nous propose mercredi prochain de découvrir au cinéma son nouveau film de réalisatrice. Il s'intitule Plongé, c'est l'adaptation du roman de Christophe Onodibio. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour à tous.
Vous avez été très ému par ce film et vous avez rencontré Mélanie Laurent.
Oui, je me suis immergé dans cette histoire d'amour douloureuse qui raconte comment Paz, photographe espagnol, jeune femme avide de liberté, va tomber amoureuse de César, ex-grand reporter de guerre, qui rêve lui de calme, de bonheur. Paz tombe enceinte, mais se sent prisonnière dans son rôle de maman et décide de s'en aller. Alors, c'est pas un adieu, c'est une pause, sauf qu'elle ne revient pas et que César va découvrir la terrible raison pour laquelle elle ne sera plus jamais là. Mélanie Laurent signe un film dense, bouleversant sur le couple, le rapport homme-femme, le besoin de s'accomplir. Il lui a fallu pour cela s'éloigner du livre d'origine.
J'ai pratiquement gardé aucun dialogue. J'ai gardé les 50 dernières pages, le côté très métaphysique et ouvert de la fin, quand ils ne s'aiment plus. Parce que c'est là où ça m'intéressait. Même si c'est un film sur la quête artistique, beaucoup, je crois que c'est un film assez féministe aussi. Pourquoi une femme qui a envie de voyager, elle en demande trop? Pourquoi une femme qui se sent bouleversée par l'arrivée d'un enfant est une mauvaise mère? Je trouve qu'on est loin en fait de la femme moderne qu'on essaie de nous vendre. En fait, on a le minimum des droits qu'on mérite. Dès qu'on veut un peu plus, on est folle. Et je crois que j'avais envie de parler de ça, de cette dualité, de cette incompréhension qu'on a, femme artiste, à devoir tellement prouver tout, plus que les autres, je trouve.
On entend bien que dans les mots de Mélanie Laurent, cette histoire-là a réveillé des choses en elle.
Oui, hasard de la vie et du calendrier, Plongé, le livre est paru en 2013, l'année où Mélanie Laurent est devenue la maman d'un petit Léo.
Elle a été très compliquée, cette histoire, dans ma vie personnelle. Je l'ai écrite avec beaucoup de distance et puis tout d'un coup je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas une pièce chez moi où je peux fermer la porte pour créer des choses comme j'en ai envie? Et je me suis rendu compte que en fait, je travaillais. Et puis je faisais les courses, et puis je rentrais pour l'heure du bain, et puis après c'était l'école, et puis après c'était ça, et puis après c'était ci, et puis il fallait mener les deux. Et puis tu veux être réalisatrice, tu veux être actrice, tu veux faire des choses, assume, puisque t'es mère aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a envie de dire, oui, d'accord, très bien, mais je suis une femme d'abord, en fait, avant tout. Et là, j'ai besoin de fermer la porte et de vous laisser dans le couloir ou dans le reste de l'appartement. Mais en tout cas, laissez-moi un endroit où je peux avoir juste l'impression d'être une artiste. Je crois que les artistes hommes, on les laisse être ce qu'ils sont. Je crois qu'une artiste femme, on tombe amoureux d'elle pour cette liberté, cette originalité, pour cette folie. Et puis, à un moment donné, cette même femme, on a envie qu'elle se calme, qu'elle soit contente de, parfois, de vivre le minimum. Et je voulais faire un film sur une femme qui explose. Mais au lieu d'exploser de manière hystérique, parce que je n'aime pas les femmes hystériques, je l'ai faite plonger.
Tout cela mis en image dans un écran où la beauté, la force des éléments, notamment l'eau, est sublimée à l'écran. Plongé est un film qui s'écoute et qui se regarde avec passion. C'était la volonté de Mélanie Laurent.
Quand j'ai fait Les Adoptés, on m'a beaucoup dit mais pourquoi vous faites des trop beaux plans? Comme si c'était pas bien. Et puis après j'ai fait Respire où je me suis beaucoup excusée de faire tout ça. Donc je disais à mon chef opérateur, attention, c'est trop beau, attention, attention. Et puis en troisième film, je me suis dit, est-ce que je continue à essayer de plaire à tous ces gens? Ou est-ce que je fais profondément, intrinsèquement, le cinéma que j'aime? C'est-à-dire avec ce besoin de le raconter avec les images que je voulais. Et j'avais du mal à imaginer un film sur un quotidien, une oppression, un déclic, partir à l'autre bout du monde, être au milieu des montagnes, filmer la mer, filmer des requins. J'avais du mal à imaginer que tout ça n'allait pas se terminer à un moment donné avec des plans aériens d'un tout petit bateau au milieu de la mer turquoise. Et après, ça veut pas dire que c'est un bon film, mais en tout cas, visuellement, on s'est éclaté, quoi. On se regardait, on était...
On rappelle aussi, Stéphane, l'engagement de Mélanie Laurent pour l'environnement.
Bien sûr, ce n'est pas le sujet central de Plongée, mais c'est vrai qu'on retrouve dans le film les préoccupations écologiques de l'actrice. Même si, aussi incroyable que ça paraisse, elle avait la trouille bleue, forcément, d'aller sous l'eau.
Je suis extrêmement phobique, je peux même être phobique dans une piscine. Hein. C'est la phobie va jusque-là. Mais j'ai eu très peur. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais en train de faire un découpage technique sur un film qui se passait une grande partie sous l'eau et que je n'allais pas sous l'eau. Donc, j'ai plongé. Ça a été très douloureux et j'ai plongé et là j'ai vraiment compris tout ce qu'on me disait de manière didactique en fait et que je ressentais pas dans le ventre. On me parlait d'addiction, de silence, du côté minimaliste des gestes. Et puis après c'est aussi le documentaire demain qui m'a marqué et qui me marquera à vie. Et c'était difficile d'écrire une fiction juste derrière sans être pleine de tout ça.
Bon alors on va dire un mot des acteurs du film. Hein.
Formidable comédienne espagnole, elle s'appelle Maria Valverde, elle joue le rôle de Paz face à un César impérial, incarné par Gilles Lelouch, émouvant, fragile, fort. Le comédien trouve vraiment là un de ses meilleurs rôles. Plongée, c'est un des grands films français de cette fin d'année. Ne le ratez pas. Sorti mercredi prochain, le 29 novembre au cinéma.
Merci Stéphane. Et vous savez quoi ? On va parler télévision, audience et tout le reste, et tout le tout-team dans un instant avec Isabelle Morini-Bosque. Monique Younes est d'accord.
RTL Matin, laissez-vous tenter, 9h06.
RTL Matin, laissez-vous tenter avec Yves Calvi.
La télévision, nous sommes ordonnés, on commence par les audiences de la veille avec Médiamétrie, Isabelle Morini-Bosque.
Elles sont très éclatées si j'ose dire. Alors, Le Tueur du Lac est nettement en tête avec 5 400 000 téléspectateurs, en hausse par rapport à la semaine dernière. Et alors, trois chaînes sont à plus de 2 millions. Envoyé spécial, 2 300 000. 2 300 000 également, La France a un incroyable talent. Et Un Village français, 2 200 000, c'est mal payé pour ce que c'est. Côté TNT, deux chaînes dépassent largement le million. C'est W9 avec, évidemment, le match Lyon-Apollon-Limassol, non ?
Comment ? Limassol, écoutez.
À Limassol.
Oh, mais Limassol, déjà. Quand vous le faites exprès, c'est juste, oui. C'est de la provocation. Donc,
et, TMC, et TMC avec le diable s'habille en Prada, 1,4
million. Ça l'a fait rire. Alors, du coup, on va parler de notre soirée télévisée de ce soir, vendredi. On retrouve L'Art du Crime. Hein. C'est une série qui a bien démarré vendredi dernier sur France 2.
Ah oui, 4 900 000 pour Koh-Lanta sur TF1, 4 800 000 pour L'Art du Crime, c'est un score à encadrer, si j'ose dire, pour un polar se déroulant dans les milieux de l'art. Polar créé et coécrit par Angèle Héry Leclerc, la fille de Miu Miu de Julien Clerc. L'histoire, c'est celle d'Antoine Verlet, un bon flic viré pour insubordination et récupéré par son meilleur ami dirigeant l'OCBC, l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels, ouf, autrement dit des trafics dans le domaine de l'art. Mmh. Une tête de l'art était finalement tout indiquée, comme notre Antoine, sauf que lui, il s'y connaît autant en art que Nabila en mathématiques quantiques. Extrait du premier épisode, il y était question de la peinture du XVIe siècle.
Ah Florence, je te présente le capitaine Verlet.
Bonjour capitaine.
Et je disais au capitaine que tu avais des doutes sur la valeur de ce tableau.
C'est plus que des doutes, regardez. C'est un anonyme de l'école française du XVIe. La facture est vraiment très médiocre et il n'y a pas de signature.
Oui, c'est vrai qu'elle est très moche. Excusez-moi.
Alors, Florence et Eleanor Bernheim, et oui, car il y a ce qu'on aime, le duo duel, le couple entre cette historienne raffinée et ce flic qui ne peut pas voir l'art en peinture, superbement incarné par le belge Nicolas Gobbe, gobrez bien, muscles à la monsieur propre, regard bleu fond de piscine, déjà vu dans Un Village français, oui chef, les bleus. Le grand public apprend au passage beaucoup de choses sur la peinture. Par exemple, la semaine dernière, vous le saviez, mais le grand public pas obligatoirement, on avait appris la semaine dernière beaucoup de choses sur l'homosexualité de Léonard de Vinci qui faisait poser
Léonard
son petit copain
un peu sucré, oui,
pour
un peu
les
sucré.
Portraits de femmes, voilà. Et ce soir, sur Géricault et son radeau de la Méduse, qui, on le rappelle, c'était l'horrible histoire de cette frégate française échouée en 1816 au large de la côte mauritanienne. Et 148 hommes devant s'entasser sur un radeau à la dérive, avec ensuite des actes de sauvagerie et de cannibalisme. Énorme scandale à l'époque. On en apprend et sur le radeau et sur le tableau, peu à peu détruit par la détérioration d'un pigment. Et L'Art du Crime, eh bien, il en est très fier, Nicolas Gobbe.
C'est une série ludique, didactique aussi, mais dans le bon sens du terme. Ça donne envie de s'intéresser. Donc on apprend des choses et j'ai appris beaucoup de choses. Moi, perso, en art, je suis pas insensible. Je sais ressentir face soit une sculpture, un tableau, peu importe. Mais je ne m'y connais pas plus que ça. Ce qui tombait bien pour le personnage, j'avais rien à faire, entre guillemets, si ce n'est jouer des émotions. J'ai pas fait d'école.
Vous avez fait vos classes comme nous ?
Non. J'ai arrêté... Alors c'est en Belgique, c'est différent. J'ai arrêté... J'ai arrêté l'école en troisième secondaire, mais on dit même pas ça comme ça ici.
Si, en troisième.
C'est la seule classe qui est pareille dans les deux pays. C'est pour dire que culture générale, à la base, je suis censé être très naze. Voilà. disons que j'ai appris par moi-même.
Voilà, dans la série, il doit prendre des cours d'art avec le père de l'historienne, un type condamné pour escroquerie et contraint de collaborer. Il doit prendre la peinture, ce qui lui déplaît souverainement.
Autant demander à une Ferrari de faire des ronds dans un parking.
Ouais, mais la Ferrari, elle a été jugée pour complicité d'escroquerie. Alors si elle ne doit pas finir à la casse, elle a intérêt à aller faire ses ronds dans le parking. Mmh. Tu vas voir, Antoine, quand tu vas comprendre que le cubisme, c'est pas un jeu de construction, un nouveau monde va s'ouvrir à toi. Crois-moi. Allez, hop, au boulot.
Voilà, alors, la suite, ce soir, donc, sur France 2, c'est vraiment une réussite. Je vous dis, même Télérama en a dit du bien, c'est dire.
Et samedi, on retrouve Danse avec les stars, hein, sur la Une.
Oui, le programme ne bat pas des records d'audience, mais révèle chaque saison un vrai talent. Et pour moi, ben, la révélation, c'est le jeune Québécois Lenny Kim, 16 ans. Lenny Kim Lalande.
Lalande, c'est mon nom de famille, ouais. Mais mon vrai prénom, c'est Lenny Kim. Les Français sont super accueillants avec moi. C'est ma deuxième famille, alors ça va très bien. Vous m'avez adopté, alors ça va. Je m'entends très bien avec ma danseuse, je m'entends très bien avec tout le monde. Très top. Là, on m'éloigne du hip-hop et on me fait découvrir un nouveau style complètement différent et qui est beaucoup plus technique et beaucoup plus difficile. Ouais. Participer à l'aventure, c'est une chance inouïe que j'ai. Mais de gagner, c'est pas du tout mon objectif pour l'instant. Chaque semaine, c'est un défi à relever et c'est vraiment comme ça que je vois l'aventure. Je viens pour travailler, je viens pour repousser mes limites. Moi, je suis quelqu'un qui aime se donner à 100%. Du coup, je trouve que c'est la parfaite émission pour. Je viens pas ici du tout dans l'optique de gagner, mais c'est vrai que ça va faire une très belle visibilité.
C'est vrai que ça va lui faire une très belle visibilité. Ça a déjà commencé. Il sera l'une des vedettes des Enfoirés Kids le 1er décembre sur TF1. Je l'aime beaucoup. Il est très attachant.
Merci Isabelle. Si vous pouvez intervenir auprès d'M6, vous qui avez le bras long, pour qu'on puisse voir en replay dès le lendemain la nouvelle star, ça me ferait plaisir. Parce que hier soir, j'étais un peu frustré. Enfin bon, c'est un débat que nous mènerons une autre fois.
Je vous ferai mes commentaires avant sur l'élimination de Damory, 26 ans. C'est très injuste.
Vous êtes très aimable. Bernard Lehu, bonjour.
Bonjour.
Vous vous êtes glissé à l'intérieur du jury d'un prix littéraire, pas comme les autres, celui de 30 millions d'amis qui récompense un roman ou un essai mettant à l'honneur l'animal.
Et oui, et qui fête ce prix ses 35 ans d'existence, alors ça mérite bien une petite visite, d'autant que le jury a fière allure, composé d'écrivains de renom, Michel Houellebecq, Didier Van Cauwelaert, Didier Decoin, Jean-Loup Dabadie, Irène Frein ou le philosophe Frédéric Lenoir. Ils ont le privilège de se réunir dans la salle à manger des Goncourt chez Drouan et c'est là, et c'est là que l'éditrice Teresa Crémisi s'apprête à annoncer le prix 30 millions d'amis aux côtés de Michel Houellebecq, vert de rouge à la main et, comment dire, apparemment pressé, très pressé.
Le 35.
Attendez. Bon, allez, on arrête là. Il faut commencer là.
Bon, d'accord, Michel, on commence. Alors, ben, un mot quand même sur votre présence dans le jury 30 millions d'amis. Les bêtes ont-elles la place qu'elles méritent en littérature ?
J'aime bien les animaux, mais c'est pas le sujet le plus facile à aborder. C'est pas le cœur de littérature et ça reste un sujet secondaire.
Et alors, en tant que lecteur, quel est pour vous le plus beau héros animal dans la littérature ?
Lassie,
chien fidèle ?
Oui.
Que vous avez lu enfant ?
Oui, j'ai lu plusieurs fois, mais déjà enfant. Ça reste le meilleur. Bon, j'y vais. Hein.
Mais décidément très pressé.
En tout cas, avec vous, on comprend tout hein, quand il parle de Houellebecq.
Bon, donc pressé, on va le laisser partir peut-être. Alors, je me tourne à ce moment-là vers Réa Hutin, la veuve de Jean-Pierre Hutin, le créateur de 30 millions d'amis. Elle se souvient d'un autre membre du jury aujourd'hui disparu, l'ami Raymond Forlani, l'ancien monsieur cinéma ici de RTL, lui-même écrivain et grand amoureux des chats.
Là, vous avez vu, il n'y avait pas d'animaux, mais avec Raymond, on faisait venir des chats, des chiens, jusqu'au jour où il s'est fait littéralement attaquer par un chat et ça a fini avec les pompiers ici dans la salle des Goncourt.
Raymond a amené ses chats au moment
absolument
du déjeuner.
Non, on avait emmené des chats, des furets et il y avait toujours les chiens, des jurés. Moi j'avais Mabrouka, la mascotte de l'émission. Je suis heureuse que là pour la 35e année, on soit devenu un vrai prix littéraire. Nous sommes dans la salle des Goncourt et c'est vrai qu'on a mérité notre titre du Goncourt des animaux.
Voilà. Je suis rassuré parce qu'on comprend qu'on a quand même affaire à une bonne bande de doudingues. Oui. Est-ce que tous les jurés du prix 30 millions d'amis ont des animaux.
Eh bien, vérification auprès de Didier Van Cauwelaert.
Je partage aujourd'hui encore un chat avec mon voisin à la campagne qui a deux foyers. Et moi, c'est plutôt le foyer du matin, parce que je suis très matinal. Et c'est assez formidable de se dire pourquoi cet animal me choisit. Je suis très touché par cette part qui m'échappe dans le lien que l'animal d'un autre a noué avec moi. J'aime bien ce côté adultérin, en fait, qu'ont les animaux avec moi. Il s'appelle Sam chez le voisin et Titi chez moi. Pour des raisons d'ordre tout à fait privé. Voilà, bah c'est un chat schizophrène, peut-être, à cause de nous, mais il se porte très bien.
Irène Frein est l'une des jurées les plus fidèles du prix 30 millions d'amis. Un souvenir pour elle, plus fort que les autres ?
Un moment particulièrement bouleversant, c'est quand nous avions primé un livre sur l'homme qui a sauvé les animaux du zoo de Bagdad. Je crois qu'on était trop bouleversés par ce livre, et c'était encore la guerre là-bas, et suivre le cheminement de cet amoureux de ces bêtes sauvages qui, malgré les bombes, malgré le terrorisme, arrive à sauver une à une ces bêtes. Alors, c'est un paradoxe énorme, ça nous interroge toujours énormément, mais quand on s'interroge sur l'animal, on s'interroge toujours sur l'humanité.
Belle conclusion d'Irène Frein. Et pour ce 35e prix, 30 millions d'amis, quel livre a finalement été récompensé?
Alors, deux cette année. Le prix littéraire pour le roman Denise au Ventoux de Michel Julien, publié chez Verdier, l'amitié d'une chienne bouvier bernois et d'un banquier parisien, leur escapade sur le Mont Ventoux prendra un tour inattendu et bouleversant. Et puis le jury a également récompensé un document Dans la peau d'une bête de Charles Foster chez Lattès. Ce professeur à Oxford raconte comment il a vécu plusieurs mois, et c'est vrai, littéralement, hein, dans la peau d'un blaireau, d'une loutre, d'un cerf ou d'un renard. C'est stupéfiant et passionnant.
Bon, j'y vais. Hein.
Oui, d'accord, Michel. Allez, bye bye.
Allez, à tout de suite avec Monique Younes qui nous emmène au théâtre. Bon, oui, on adore ça.
On ronronne, au plaisir. C'est Laissez-vous tenter, il est 9h16, à tout de suite.
RTL Matin,
Laissez-vous tenter,
avec Yves Calvi.
9h21, bonjour chère Monique Younes.
Bonjour.
Vous nous parlez ce matin de Sulky et Sulcu, deux personnages, ben oui ça fait toujours rire, deux personnages créés par Jean-Michel Ribes en 2005 dans sa pièce de théâtre Muséo, Musée Bas, qui fut aussi un film. Ils sont aujourd'hui sur la scène du théâtre du Rond-Point à Paris dans un nouveau spectacle intitulé Sulky et Sulcu ont des conversations intelligentes, ça c'est merveilleux. Pardonnez-moi, des conversations intelligentes sur quoi?
Ah ben Sulky et Sulcu ont des échanges de très très grande qualité et dans tous les domaines, tenez.
Je t'avoue que je ne saisis pas ce qui t'ennuie vraiment dans le football.
Un peu tout, Sulcu, mais surtout le ballon.
Le ballon?
Oui, il gêne beaucoup, je trouve.
Le ballon?
Ben oui, il gâche le plaisir. Il n'y aurait pas le ballon, il n'y aurait pas autant d'énervement, de tension. Tous ces garçons prendraient le temps de vivre, se sentiraient libres d'aller où bon leur sent. Ils pourraient s'asseoir sur la pelouse, rêver un brin d'herbe à la bouche, discuter entre eux, se connaître vraiment, échafauder des projets. Ils sont jeunes, hein. Ils ont tout l'avenir devant eux, le ballon, leur bouche.
Mais Sulky est loin d'être un extrémiste. Vous savez, il botte en touche quand Sulcu suggère d'interdire le ballon.
Tu sais ce que je crois, Sulky? Plus de ballon, et c'est la paix dans le monde.
Oui, mais...
Mais quoi, Sulky?
La paix, parfois, Sulky, c'est ennuyeux aussi.
Souvent, Sulky.
Faudrait peut-être se garder juste un ballon ou deux sous le pied, juste pour faire peur.
Un ballon dissuasif.
En espérant qu'on ne s'en serve jamais.
Bah alors j'ai compris, Sulky et Sulcus, ce sont un peu les bouvards et pécuchets d'aujourd'hui.
Exactement. Voilà. Tout ce qui est dans l'air du temps nourrit leur conversation à bâton rompu, conversation truffée de syllogismes, d'aphorismes. Elles ont de l'esprit, mais surtout d'escalier, et posent un regard sans concession sur les êtres et les choses.
Je n'aime pas les bourgeois, je n'y arrive pas. Sauf ceux qui nous invitent l'été en Corse. Ceux-là sont gentils, ce qui...
Quand ils ont un bateau et des femmes de chambre.
Bien sûr, Sulky.
Sinon, je ne les aime pas.
Voilà, Sulky et Sulcu passent du coq à l'âne, débattent, se disputent, philosophent et trouvent finalement que la Terre ne tourne pas rond.
Sulky, avoir le sentiment d'être soudain un imbécile, ça n'est pas rien.
Je te l'accorde bien volontiers, Sulky.
Méditer, Sulky, c'est prendre conscience de soi. C'est s'ouvrir pour se découvrir. Crois-moi, se sentir idiot... C'est une belle découverte.
Alors, le seul domaine dans lequel Sulky et Sulcu ne s'aventurent pas, c'est l'amour.
Mais pourquoi ça, Manu?
Eh bien, parce qu'il est impossible de parler intelligemment d'amour, d'après l'auteur en tout cas. Jean-Michel Ribes a imaginé Sulky et Sulcu faisant des courses avec le pape, fréquentant des communistes qui pissent de l'essence sans plomb, et surprenant la Joconde en train de regarder un saucisson. Oh oui. C'est d'ailleurs ce qui l'a fait sourire, la Joconde.
Le saucisson?
Mais pourquoi pas, hein? C'est une piste avancée par Sulky et Sulcu, qui sont interprétés par Romain Cottard et Damien Zanoli, accoutrés de costumes bicolores, orange et mauve pour Sulky, jaune et mauve pour Sulcu, ou peut-être l'inverse, je ne sais plus. Alors si vous voulez le vérifier, rendez-vous au théâtre du Rond-Point. Sulky et Sulcu ont des conversations intelligentes jusqu'au 9 décembre.
On a passé un très bon moment.
Donc la Joconde est une charcutière.
Ça fait partie des éventuelles hypothèses que vous venez de soulever avec brio. Je vous remercie de cet apport à l'émission, Bernard Lehu. Dans quelques instants, on se dit au revoir. revoir. Et puis on va retrouver Julien Courbet. Allez, bonne journée à l'écoute d'RTL.
RTL 9h25.
On a passé un très bon moment. Merci à toute l'équipe de Laissez-vous tenter. Et on retrouve notre Julien Courbet. Bonjour Julien.
Bonjour, comment ça va mon Yves?
Ça va bien. Ça s'est passé comment hier soir avec toute l'équipe des programmes d'RTL?
Voilà, au théâtre.
Oui, au théâtre. Ah, bah oui.
C'était bien. Jacques Expert, notre grand patron, bah, lui, il était content parce que le spectacle dure 1h20. Il a pu mettre à jour tous ses mails. qu'est-ce qu'on a eu? Justine Vigneault, vous savez, qui s'occupe de l'heure du crime, a tué un de mes spectateurs pour avoir de la matière pour son émission.
Parfait.
Et puis il y avait une dame qui était assise à côté de Vincent Perrault qui faisait encore. Je suppose qu'il lui parlait de son émission. Donc écoutez, tout ça m'a permis de me concentrer comme j'ai pu, mais c'était sympa.
Et votre Xavier, il a fait quoi?
Xavier Kassovitch?
Oui.
Oui, ben lui, je préfère pas vous dire ce qu'il a fait parce que j'ai dû aller le chercher en garde à vue à 3h du matin à m'expliquer, donc on n'en parlera pas si vous le voulez bien. Et non, c'était une très belle soirée, comme vous pouvez le constater.
C'est dans quel théâtre?
Et ça recommence ce soir.
Ça recommence ce soir, mais heureusement, cette fois-ci, il n'y aura pas l'équipe d'RTL. Ce soir, on va enfin pouvoir, à la Comédie des Boulevards.
20h10.
Bon week-end à vous tous, mes amis.
Bon week-end.
Et reposez-vous
bon
bien, vous l'avez mérité.
Émission.
Vous écoutez RTL.